Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris, où il est 22h.
François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal en français facile. C'est Sylvie Berruet qui va le présenter avec moi. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Dans l'actualité de ce vendredi 23 octobre, en Europe, le nombre de cas de Covid dépasse les 8 millions désormais et plus de 258 000 personnes en sont mortes. Le Soudan et Israël s'entendent pour normaliser leurs relations. Et puis d'anciens interprètes de l'armée française manifestent devant l'ambassade de France à Kaboul pour demander des visas.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
La France a passé la barre du million de cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Et la situation continue de se dégrader, avec plus de 40 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures.
Et le bilan des morts s'est également alourdi, avec 298 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Le bilan global est d'au moins 34 500 morts depuis le début de l'épidémie.
Avant la France, l'Espagne était devenue, c'était mercredi, le premier pays d'Europe occidentale à dépasser le million d'infections au Covid-19.
Et en Grande-Bretagne, Manchester est finalement passé de force en zone d'alerte maximale.
Son maire, Andy Burnham, opposé au pouvoir central, a perdu son combat et sa région doit se mettre au niveau d'alerte le plus élevé.
Mais ces restrictions très sévères suscitent de nombreuses critiques et un sentiment d'injustice de la part des commerçants et des habitants qui dénoncent une différence de traitement entre le nord et le sud.
Reportage à Liverpool de Muriel Delcroix.
Des rues désertes et des magasins qui ne lèvent plus leurs rideaux de fer. Les habitants de Liverpool ne reconnaissent pas leur ville.
Je suis tellement désolée pour tous ces commerçants qui font tout ce qu'ils peuvent, mais qui n'ont plus de clients. C'est triste.
Je n'ai jamais vu une ville si tranquille. C'est vraiment inquiétant.
La gestion très localisée choisie par le gouvernement de Boris Johnson pour endiguer la résurgence du virus génère de fortes tensions entre Londres et les collectivités locales, surtout dans le nord du pays où une grande proportion de la population est défavorisée.
Pour moi, beaucoup de ces restrictions n'ont aucun sens. Il y a beaucoup d'incohérences, des messages contradictoires. Le gouvernement communique très mal et aurait pu mieux gérer la situation.
Est-ce que les régions du nord se sentent laissées pour compte ?
On est habitué à être moins bien traité. Londres est le centre de l'univers. Pour beaucoup, il n'y a pas de vie intelligente en dehors de Londres. Et puis cette ville ne votera jamais conservateur, ils le savent, donc Liverpool, ils s'en fichent.
Avec des hôpitaux qui traitent désormais plus de patients infectés que lors de la première vague, Liverpool reconnaît qu'il fallait agir, mais aurait préféré un vrai confinement national et soupçonne le gouvernement d'avoir imposé des restrictions locales avec des compensations financières moins coûteuses. Muriel Delcroix, de retour de Liverpool, RFI.
Et la situation est préoccupante dans la plupart des pays européens. En Belgique, les experts réclamaient l'électrochoc d'un reconfinement face à une situation sanitaire qui se dégrade rapidement. Mais le gouvernement a limité les nouvelles restrictions anti-Covid au sport et loisirs, laissant les commerces et les écoles ouvertes.
Le Danemark va étendre dès lundi le port du masque, puis renforcer ses mesures de restriction de rassemblement pour tenter d'endiguer la forte hausse des infections.
Voilà pour ce dossier coronavirus. Les États-Unis retirent le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Et Khartoum accepte de normaliser ses relations avec Israël après des années de liens plus discrets.
Et le Premier ministre israélien proclame que cette décision est une nouvelle victoire pour la diplomatie de son pays. Michel Paul.
C'est quelques minutes tout juste avant le début du Shabbat que le Premier ministre israélien a annoncé ce qui est considéré ici comme un événement charnière au Proche-Orient, un véritable changement de direction. À Khartoum, en 1967, a rappelé Benjamin Netanyahou, a été publiée la fameuse déclaration des trois noms de la Ligue arabe, non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance de l'État hébreu et pas de négociation avec Israël. Aujourd'hui, souligne Netanyahou, le Soudan dit exactement le contraire. Oui à ces trois options.
C'est une nouvelle ère, une ère de paix véritable, la paix qui s'étend à de nouveaux pays arabes. Trois d'entre eux ces dernières semaines. Nous agrandissons le cercle de la paix. Quelle émotion, pourvu que cela continue.
À Jérusalem, on indique que très prochainement, des délégations israéliennes et soudanaises vont se rencontrer pour envisager une coopération dans des domaines divers. Dès à présent, affirme-t-on aussi, le ciel soudanais est ouvert aux vols commerciaux israéliens, ce qui va raccourcir de manière considérable les trajets, notamment pour l'Afrique et l'Amérique du Sud. De sources diplomatiques, on indique également que la question des réfugiés soudanais en Israël est incluse dans l'accord de normalisation avec Khartoum. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
En Afghanistan, entre 30 et 40 anciens interprètes de l'armée française ont manifesté ce vendredi à proximité de l'ambassade de France à Kaboul.
Oui, ces anciens interprètes de l'armée française demandent la révision de leur cas après que la justice française a rejeté à plusieurs reprises leur demande de visa pour s'installer en France.
Waïdoula est le représentant de ces anciens interprètes.
Et il craint pour sa sécurité et celle de ses confrères. Il estime que leur passé les désigne particulièrement comme cible des talibans. Écoutons-le, joint à Kaboul par Yelena Tomic.
Nous nous sommes rassemblés devant l'ambassade de France pour demander justice. Nos demandes de visa ont été rejetées à au moins deux reprises. Nous voulons obtenir les mêmes droits que les autres interprètes qui vivent aujourd'hui en France. Nous sommes environ 27 et plus de 50 anciens auxiliaires de l'armée sont environ 100 personnes dont les demandes ont été déboutées. Comme vous le savez, en ce moment même, les talibans sont aux portes de Kaboul. Ils sont tout autour, ont installé des checkpoints, ils contrôlent et interrogent les gens, ils cherchent à recruter. Et cela nous inquiète beaucoup. Nous avons peur qu'ils nous repèrent comme anciens interprètes de l'armée française. Et s'ils nous retrouvent, que va-t-il nous arriver? Le gouvernement et les autorités françaises nous ont oubliés. Ils devraient aussi penser à nous, car nous avons collaboré avec l'armée française. Et même si j'ai mis ma vie en danger, ma demande de visa a été rejetée.
Waïdoula, des propos recueillis par Yelena Tomic. En France, au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris s'est intéressée ce matin à l'organisateur de l'attaque de l'hyper-cachère. Il s'appelle Abdel Nasser Ben Youssef, un cadre de l'organisation État islamique, mort en Syrie.
Et depuis la prison où elle est détenue depuis son retour en France en janvier dernier, sa veuve, Sonia Mejri, 31 ans, a été entendue par la cour. Elle a notamment raconté avoir vu Hayat Boumediene, la femme d'Amédi Coulibaly, jugée par défaut par la cour d'assises.
Alors, Marine de la Moissonnière assiste au procès pour RFI.
D'une voix calme, Sonia Mejri raconte comment son premier mari, Abdel Nasser Ben Youssef, émir des opérations extérieures de l'organisation État islamique, lui avoue un jour, sous le coup de l'énervement, qu'il a organisé l'attentat de l'hyper-cacher pour lequel il a recruté Amédi Coulibaly. Il ne lui en dira pas plus à elle, dont le rôle est de faire le ménage et à manger, elle qui n'a pas le droit de poser de questions. C'est Hayat Boumediene, la veuve du terroriste que Sonia Mejri a croisé à plusieurs reprises en Syrie, qui lui fournira d'autres informations. Elle disait souvent que son mari et les Kouachi avaient voulu faire les attentats ensemble pour créer une cohésion entre Daesh et Al-Qaïda, explique Sonia Mejri, qui décrit une jeune femme totalement acquise à la cause de l'EI. Pour elle, c'était Dieu qui faisait le ménage, qui éliminait les hypocrites jusque dans les camps. Hayat Boumediene continue de soutenir l'organisation djihadiste. Sonia Mejri, elle, a vite cessé de croire. Son premier mari lui faisait subir des viols et des choses interdites par l'islam, comme la sodomie, explique-t-elle la tête baissée. À la fin de son audition, la mère de famille demande si elle peut passer un message. Elle s'adresse alors à la rédaction de Charlie Hebdo. « Ne lâchez pas, dit-elle, vous représentez la liberté et c'est ce qu'ils détestent le plus, alors ne lâchez pas. »
Marine de la Moissonnière, voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté, merci à Sylvie Berruet de l'avoir présenté avec moi.
Avec plaisir François, et vous pouvez retrouver l'audio de ce journal sur notre site internet, ainsi que son texte dans la partie RFI Savoir au pluriel.
Bonsoir à tous et à demain.
Et à demain.
Merci aussi à Claude Battista qui a réalisé cette émission.